Véroa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 29 novembre 2023. Dubaï accueille demain le sommet des Nations Unies sur le climat, la COP 28, alors que l'urgence climatique s'amplifie.
Et nous nous rendons compte que la priorité est ailleurs. La priorité peut-être c'est les hydrocarbures sur le pétrole. La priorité n'est vraiment pas le climat. Donc je serais peut-être pérantement prétentieux. L'Afrique n'attend rien de la COP 28.
Didier Yimkwa, militant d'écologie en marche, nous situera sur les attentes dans la partie magazine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend aujourd'hui en Israël pour tenter de prolonger la trêve entre l'État hébreu et le Hamas. Au Mali, enquête judiciaire contre des chefs d'Al-Qaïda et des rebelles Touareg pour terrorisme. République démocratique du Congo, l'Union européenne annule sa mission d'observation électorale pour la présidentielle du 20 décembre pour des raisons de sécurité. Ne manquez pas notre page pro ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Ouverture de la COP 28 demain à Dubaï. Pendant deux semaines, les négociateurs de près de 200 pays vont discuter des priorités liées au réchauffement climatique. Nathalie Barge.
Les États-Unis et la Chine, responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre, vont continuer leur collaboration, a déclaré l'émissaire américain John Kerry. Nous sommes les deuxièmes, ils sont les premiers émetteurs de ces gaz, et sans une action offensive de la Chine et des États-Unis pour réduire les émissions, on ne gagnera pas cette bataille, a-t-il souligné lors d'un point de presse à Dubaï. L'une des décisions les plus attendues consistera à établir le premier bilan de l'accord de Paris. Des ONG impliquées dans la COP 28 espèrent des décisions historiques sur l'aide financière aux pays vulnérables et moins pollueurs. Par ailleurs, le président de la compagnie pétrolière nationale émirati, Sultan Al-Jaber, s'est défendu de vouloir user de sa position de président de la COP 28 pour promouvoir des projets pétroliers et énergétiques des Émirats dans plusieurs pays, dont le Kenya et le Brésil.
Malgré la lueur d'espoir apportée par la trêve d'Israël et le Hamas, les habitants de la bande de Gaza vivent une catastrophe humanitaire monumentale, a dénoncé aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, réclamant un véritable cessez-le-feu humanitaire. Nous ne devons pas détourner les yeux, a martelé Antonio Guterres aujourd'hui devant le Conseil de sécurité. Les négociations entre Israël et le Hamas en vue de prolonger la trêve à Gaza ont été éclipsées à la dernière minute par une affirmation non confirmée du Hamas selon laquelle une famille d'otages israéliens, dont un bébé de 10 mois, a été tuée. Davantage avec Alexandrine Ollognon.
La branche militaire du Hamas a déclaré que le plus jeune otage, le bébé Kfir Bibas, a été tué lors d'un bombardement israélien antérieur, de même que son frère Ariel, âgé de 4 ans, et leur mère, peu avant la dernière libération des femmes et des enfants otages prévus dans le cadre de la trêve. Les responsables israéliens ont déclaré qu'ils vérifiaient la déclaration du Hamas, une question très sensible en Israël, où la famille est l'un des otages civils les plus en vue à n'avoir pas encore été libéré. Un responsable israélien a déclaré qu'il serait impossible de prolonger le cessez-le-feu qui doit prendre fin aujourd'hui sans un engagement à libérer toutes les femmes et tous les enfants parmi les otages. Dans l'objectif de prolonger la trêve, les pays médiateurs redoublent d'efforts et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit avoir des entretiens jeudi en Israël et en Cisjordanie. Nous souhaiterions voir cette pause prolongée, a affirmé Anthony Blinken à Bruxelles. Cette prolongation signifie plus d'otages qui rentrent chez eux et plus d'aide, a-t-il précisé.
Les États-Unis et leurs alliés continueront à soutenir l'Ukraine, ont martelé les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN réunis à Bruxelles mardi et aujourd'hui, à commencer par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'Ukraine réclame davantage d'armes et de munitions pour être en mesure de l'emporter sur le champ de bataille où les lignes de front ne bougent pratiquement plus depuis des semaines. Mais une aide supplémentaire des États-Unis est bloquée au Congrès américain en raison de réticences de certains élus républicains américains et les Européens rechignent de leur côté à débourser davantage pour aider Kiev. L'armée russe, pour sa part, accentue sa pression dans l'est de l'Ukraine, même si des gains territoriaux y restent marginaux, avec la conquête revendiquée aujourd'hui d'un village près de Bakhmout et les combats autour de la localité d'Avdiivka. Ces dernières semaines, la contre-offensive ukrainienne déclenchée cet été s'est figée dans le sud de l'est, sans progression d'ampleur ni espoir de percer, et depuis le début de l'automne, ce sont les forces russes donc qui montrent qu'elles ont encore des ressources en lançant des attaques. L'ancienne première dame des États-Unis, Rosalynn Carter, est décédée la semaine dernière à 96 ans. Elle sera enterrée aujourd'hui lors de funérailles privées après un grand hommage hier annoncé la Fondation Carter. Impliquée dans les campagnes et le parcours politique de son mari, Jimmy Carter, elle s'est distinguée tout au long de sa vie par son engagement pour la démocratie, les droits humains et les questions de santé et les actions caritatives.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, au Mali, la justice a annoncé l'ouverture d'une enquête visant des chefs locaux d'Al-Qaïda et des rebelles Touareg pour actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d'armes de guerre. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Sur la liste des personnes citées par le procureur de la Cour d'appel de Bamako, Iyad Ag Gali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le prédicateur Amadou Bari, alias Amadou Koumfa, chef de la Katiba Massina, Hussein Ould Goulan et Achafagi Ag Bouhada. Le communiqué énumère aussi six responsables de groupes armés à dominante Touareg qui ont repris les armes contre l'État malien malgré la signature d'un accord de paix avec Bamako en 2015. Il s'agit d'Algabas Ag Intala, Bilal Ag Ashrif, Ibrahim Ould Anda, Fahag Ag Al Mahmoud, Aounoun Ould Ali et Mohamed Ag Najim. Selon le parquet, l'exploitation de renseignements qui lui sont parvenus fait apparaître la constitution entre certains individus d'une association ayant pour but de semer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image de l'armée malienne. Le nord du Mali est en proie depuis août à une intensification des confrontations. Le retrait de la mission de l'ONU a entraîné une course pour le contrôle des camps laissés par les casques bleus.
Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a présenté aujourd'hui le premier budget depuis son arrivée au pouvoir, centré sur la sécurité et la croissance économique dans un contexte de forte inflation. Dans un discours prononcé devant le Parlement à Abuja, la capitale, le chef de l'État nigérian a expliqué qu'attirer les investissements et résoudre la crise du coût de la vie au Nigeria sont au cœur de sa proposition de budget d'environ 35 milliards de dollars pour 2024. Selon lui, le gouvernement s'attend à ce que l'inflation à hauteur de 27% actuellement soit ramenée à 21,4% en 2024. Le président table en outre une croissance d'au moins 3,76% l'année prochaine. L'Union européenne annule sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo, invoquant des raisons techniques. Le point avec Dili Diko.
En raison de contraintes techniques, nous sommes contraints d'annuler la mission d'observation électorale en RDC, a déclaré aujourd'hui Nabila Masrali, porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne. Elle a précisé que les équipements de télécommunications essentiels n'ont pas pu être mis à disposition des observateurs déployés en vue des scrutins du 20 décembre. Hier soir, l'Union européenne a déclaré que ses observateurs arrivés sur place n'ont pas pu se déployer à travers le pays pour des raisons de sécurité, ce qui rend leur mission impossible. Le pays est secoué depuis 30 ans par des violences de groupes armés qui ont continué malgré la présence de soldats de maintien de la paix de l'ONU et de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Kinshasa a décidé de ne pas renouveler au-delà du 8 décembre le mandat de la force est-africaine. Parallèlement, la MONUSCO présente en RDC depuis 1999 a signé avec le gouvernement un plan de retrait de ses quelque 14 000 casques bleus.
L'armée malgache a mis en garde aujourd'hui contre toute tentative de déstabilisation du pays après que la justice a annoncé l'inculpation de deux officiers pour incitation à la rébellion avant l'élection présidentielle du 16 novembre. 10 des 12 candidats de l'opposition ont boycotté le scrutin après des semaines de violentes manifestations dans les rues. La commission électorale a déclaré le président sortant André Rajoy Carole vainqueur et la Cour constitutionnelle doit certifier les résultats vendredi. Le procureur Narendra Rakotonania a déclaré mardi en fin de journée que les deux officiers de l'armée avaient été emprisonnés et resteraient en détention jusqu'à la tenue d'une audience. Au Kenya, la justice a tenu une première audience sur le meurtre d'Agnès Wanjiru, une jeune femme qu'un soldat britannique est accusé d'avoir tuée en 2012. Son corps sans vie avait été découvert dans une fosse septique à Nanyuku. L'audience a été renvoyée au mois de mai prochain. Et puis, en Afrique du Sud, Mdoumiseni Mzouma, considéré comme un des instigateurs des émeutes qui ont enflammé le pays en juillet 2021, a été condamné à 12 ans de prison ferme. Cet homme de 36 ans est la première personne condamnée pour incitation au trouble dans le cadre de poursuites lancées après ces émeutes qui ont fait plus de 350 morts. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouhamadou Mfa.
La Banque africaine de développement a approuvé ce mercredi 29 novembre 2023 un prêt de 101 millions d'euros au Kenya pour mettre en œuvre la troisième phase du projet de connectivité du dernier kilomètre. Elle permettra d'améliorer l'accès à l'électricité pour les ménages, les infrastructures sociales ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises. Le projet de phase 3 complète les deux premières phases qui ont permis de raccorder plus de 2,5 millions de personnes au réseau. L'économie de la République démocratique du Congo devrait enregistrer un taux de croissance de 4% en 2023, a annoncé mardi à Brazzaville le président Denis Sassou Nguesso dans un message sur l'état de la nation. Pour soutenir cette embellie qui se dessine, il a appelé les Congolais à un effort de rigueur et de vigilance soutenue en appliquant rigoureusement les mesures adoptées ces trois dernières années, à savoir les paiements électroniques, l'élargissement de l'assiette fiscale. Les recettes touristiques de la Tunisie ont progressé de 32% sur les 11 premiers mois de l'année 2023 par rapport à la même période l'année dernière. Cette augmentation de revenus du secteur touristique a contribué au renforcement des réserves de change du pays qui se sont également améliorées pour atteindre environ 8 milliards de dollars. Le tourisme est un secteur vital pour la relance de l'économie tunisienne et représente 9% du PIB.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite aujourd'hui des matchs de la cinquième journée en Ligue des Champions ce soir.
Oui, Manchester United ne doit pas perdre en Turquie contre Galatasaray pour éviter une élimination. Dans l'autre match qualifié pour les huitièmes de finale avec la première place du groupe déjà assurée, le Bayern Munich veut poursuivre sa série de 17 victoires consécutives en phase de groupe de l'épreuve continentale contre Copenhague. Lens doit réaliser un nouvel exploit contre Arsenal pour espérer voir le tour suivant. Avec leur victoire de la journée précédente contre le FC Séville, les Gunners, premiers avec 9 points, sont tout proches de la qualification. Un match nul suffirait aux Londoniens pour filer en huitième. Désormais dirigé par Walter Mazzarri, après le limogeage de Rudy Garcia il y a plus de 10 jours, Naples affronte le Real Madrid, déjà qualifié pour les huitièmes.
Les exclusions temporaires vont être mises à l'essai chez les pros.
L'IFAB, gardien des lois du jeu, a recommandé la mise à l'essai des exclusions temporaires dans le football professionnel lors de sa réunion annuelle à Londres. En 2017, l'International Football Association Board a validé la mise en pratique d'exclusions temporaires dans le but d'apaiser d'éventuelles tensions sur le terrain et d'améliorer le fair play dans les catégories amateurs de jeunes, de vétérans ou encore pour personnes handicapées, sous réserve d'approbation de chaque fédération nationale et confédération. En France, l'expulsion temporaire, à savoir un carton blanc infligé au contrevenant, sommé d'aller se calmer pendant 10 minutes, est en vigueur depuis 2018 dans les compétitions amateurs. Cette proposition sera examinée lors de l'Assemblée générale annuelle de l'instance à Glasgow en mars 2024.
Basketball, fin de la phase de poule en Coupe NBA.
Boston, Milwaukee, New York, Phoenix, Sacramento et la Nouvelle-Orléans se sont qualifiés pour les quarts de finale de ce tournoi de mi-saison nouvellement créé par la NBA. Boston s'est imposé face à Chicago 124 à 97 dans ces rencontres qui comptent aussi pour la saison régulière. Milwaukee s'est débarrassé de Miami 131 à 124. Sacramento s'est imposé face aux Golden State Warriors 124 à 123. Les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers avaient déjà validé leur qualification pour les quarts la semaine dernière. Les quarts de finale vont opposer Milwaukee à New York, Indiana à Boston, Los Angeles à Phoenix
et Sacramento à la Nouvelle-Orléans. Les vainqueurs se rendront à Las Vegas pour y disputer un Final Four avec les demi-finales le jeudi 17 décembre, puis le 9 décembre, la finale, la seule rencontre qui ne compte pas pour la saison régulière.
Page de sport VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La justice malienne a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête visant des chefs locaux d'Al-Qaïda, dont Yad Agali et des rebelles Touareg, pour actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d'armes de guerre. Nathalie Barge a joint Andrew Lebovich, spécialiste du Sahel à l'Institut Klingelendael, basé ici à Washington.
Une continuation d'une certaine manière de la politique de la junte malienne depuis un certain temps, et en particulier depuis la reprise des hostilités entre les rebelles, en particulier la société, et le gouvernement après l'été, où le gouvernement a fait l'amalgame entre ce qu'ils appellent les terroristes et les autres. Donc tout le monde est devenu terroriste dans la description du gouvernement malien, y compris les groupes signataires de l'accord de paix en 2015. Donc ce n'est pas vraiment un changement dans la politique.
Alors qu'est-ce que cela pourrait impliquer justement, notamment pour les rebelles Touareg, ce type de décision de la justice?
D'après les entretiens qu'ils ont fait depuis et les discussions avec les membres de ces groupes-là, c'est pas une grande différence pour eux, ça fait pas grand-chose, parce qu'effectivement, ils ont quitté les leaders qui ont été à Bamako, ont quitté Bamako depuis quelques mois. Ils ne sont pas dans une position d'être mis devant la justice malienne. Et aussi, ça signifie juste l'ouverture d'une enquête. On ne sait pas si on va procéder, par exemple, au procès, judiciaire dans les cours maliennes. Donc, ça ne change pas grand-chose pour les mouvements armés, les mouvements Touareg en particulier.
Quelles sont les relations sur le terrain entre les djihadistes et les groupes Touareg?
C'est difficile à dire parce que, par exemple, depuis la reprise des hostilités, on a constaté certains attentats revendiqués par un groupe et attribués par des opérateurs à un autre. Et aussi, c'est clair que le groupe principal, le groupe lié à Al-Qaïda, le génie, opère dans certains endroits où opère aussi les mouvements signataires. Et on constate depuis un certain temps une certaine porosité entre les combattants des mouvements. Il y a des combattants, par exemple, de certains groupes signataires qui se combattent aussi de temps en temps pour génie. Mais on ne peut pas parler d'une relation comme existait pour une certaine période, en 2012, par exemple, où il y avait la scission entre Ansardine et le MNLA. On n'est pas dans la même situation aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a, dans certains endroits, un partage du territoire et une certaine, comme je disais, porosité entre les mouvements pour un nombre de combattants.
Andrew Lebovich, spécialiste du Sahel à l'Institut Klingendael à Washington DC.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, la situation des déplacés inquiète. La région de la boucle du Moun est l'une des plus touchées par le terrorisme. Dans cette zone, de grandes localités ne sont plus accessibles que grâce à des convois de l'armée. Toma est l'une des villes encore sûres de la zone, mais autour de cette cité, de nombreux habitants des pillages environnants ont été contraints au départ du fait de l'insécurité. La ville reçoit de nombreux déplacés ayant fui leur village. Le reportage de notre correspondant Gilles Dasda.
Dans un quartier périphérique de la ville de Toma, Bruno, nom d'emprunt, s'échine à finir le vêtement d'une cliente. La machine à poudre tourne à la manœuvre, l'air serein. Bruno nous compte ses derniers instants passés dans son village de Sarankwe, à 20 km de là, avant que les terroristes ne les poussent au départ.
On avait entendu parler d'eux, qu'ils rôdaient dans les parages. Un jour, ils sont arrivés chez nous et ils nous ont donné jusqu'au lendemain pour quitter le village. C'est ainsi que ma famille et moi avons quitté le village pour venir à Toma ici. On est là depuis des mois et depuis on n'a rien reçu comme aide en termes de vivres. Pourtant, il y a nos pères et nos enfants avec nous.
Bruno aura fui avec 15 membres de sa famille. Depuis son installation ici à Toma, à près de 200 km de Ouagadougou, les difficultés ne manquent pas.
Depuis que je suis là, je me débrouille avec la couture et ma clientèle. Mais c'est difficile et c'est loin de mes attentes. Dans mon village, je gagnais beaucoup plus que cela.
Cette région de la boucle de Moumoun où vit Bruno est l'une des plus touchées par le terrorisme. Hormis son village, d'autres localités ont dû plier bagages. C'est le cas de Zouma, village de Fatou, autre nom d'emprunt.
Ils sont venus nous chasser un soir de chez nous. Ils ont commencé à tuer les gens et finalement, tout le monde est parti.
Cette dame, qui était plutôt bien nantie dans son village, est désormais réduite à aller cueillir des aliments en brousse pour nourrir ses 6 enfants qui n'ont, comble du malheur, plus accès à l'école depuis leur arrivée à Toma.
Depuis que nous sommes ici, on est délaissés et pour manger, c'est difficile. Aucun de nos enfants n'a pu repartir à l'école. Pour manger, nous allons en brousse pour élever ces feuilles et graines que nous faisons bouillir pour manger avec nos enfants.
Parole d'une déplacée interne qui ne sait plus à quel saint se vouer. De là, nous allons à l'autre bout de la ville, à la rencontre d'un déplacé interne que nous appelons Moussa. Il est parti de Gassan depuis janvier de cette année.
Plus de 10 mois ou bien combien de mois au dehors, là, vraiment, c'est pas simple. Nous vivons difficilement. Et puis, bon, l'être humain aussi, si ce n'est pas c'est toi, je peux dire, en tout cas, c'est pas simple. Et tout le monde est mieux chez lui.
En tout et pour tout, il a reçu de l'aide une seule fois depuis son arrivée. Et depuis, il est sans activité avec pourtant un loyer à payer, comme tant d'autres déplacés. Gildas Da de retour de Thomas, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique lance une série de portraits des candidats à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo qui doit se tenir en décembre 2023. Qui est Moïse Katumbi et quel est son programme à l'élection présidentielle? C'est à cette question que répond le porte-parole de son parti Ensemble pour la République, Maître Hervé Diakissé, Edis Angola joint à Kinshasa.
Moïse Katumbi en une minute est un homme entrepreneur, un homme qui transforme sa société et un homme qui l'amène vers le succès. Il est connu comme aussi un homme aux actions sociales et humanitaires. C'est la caractéristique, c'est un gagnant et c'est quelqu'un qui a impacté son environnement, son milieu d'origine et qui est toujours à la conquête d'un avenir meilleur pour lui et pour les autres. Lorsqu'on vous dit que Moïse Katumbi est un homme de compétition, ça implique effectivement son côté sportif, il est le président du club le plus célèbre professionnel du continent aujourd'hui, Mazembe. Donc c'est un homme qui, dès le départ, sait identifier les talents, encadrer les jeunes, les former, les doter des compétences nécessaires et les rendre compétitifs et gagnants. Donc c'est un homme pragmatique, c'est un homme d'organisation, ce n'est pas un pleurnichard, ce n'est pas quelqu'un qui se défausse sur les autres, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, les prend et se donne le moyen d'atteindre des objectifs. Son expérience comme gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, s'est caractérisé comme un bâtisseur. Ça veut dire un leader qui était totalement orienté vers les infrastructures, en mettant en place des politiques de partenariat public-privé avec les miniers et les autres intervenants dans les secteurs économiques du Katanga. Et Moïse Katumbi a été un gouverneur visionnaire qui a pu mobiliser les plus grandes recettes en les multipliant, en les décuplant, alors même qu'il avait trouvé la situation, la province minière, la plus riche du pays, dans le bas-fond. Et au demeurant, en quittant sa fonction, Moïse Katumbi a laissé une situation excédentaire dans les caisses de la province, ce qui est sans précédent dans toutes les autres provinces de ce pays.
Quel est son programme à l'élection présidentielle?
Le programme de Moïse Katumbi se décline sur quatre piliers qui concernent en fait toutes les transformations. Hein. D'abord, les transformations institutionnelles qui passent par un objectif majeur, assurer la sécurité et la stabilité de l'État, condition sine qua non pour un bien-être meilleur. Et donc avoir une armée qui soit elle-même bien outillée, bien formée, avec des militaires dotés des moyens nécessaires à garantir la sécurité de l'État et des services de l'État qui luttent efficacement contre la corruption et des mécanismes qui garantissent pour tous les Congolais un libre accès à la justice et au respect des droits humains. L'autre pilier qui passe par la transformation économique, c'est que notre pays, qui est potentiellement riche, n'a pas d'industrie de transformation de ses immenses ressources.
Qu'est-ce qu'il compte faire de différent par rapport à ce que le Congo connaît ou par rapport à ce que les autres candidats présentent?
C'est quelqu'un qui a déjà travaillé, donc il ne viendra pas prendre le travail au sommet de l'État. C'est quelqu'un qui, de toute façon, n'a plus besoin d'épuiser dans la caisse de l'État pour résoudre ses propres problèmes et ceux de sa famille politique.
Maître Hervé Diakissé, porte-parole du parti politique du candidat Moïse Katumbi, Ensemble pour la République.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
La 28e conférence de l'ONU sur le climat, la COP28, s'ouvre à Dubaï demain, jeudi 30 novembre, et mettra en lumière l'urgence croissante du dérèglement climatique, en particulier en Afrique. Les pays africains, premières victimes des conséquences du réchauffement de la planète, espèrent toujours la mise en place de mesures concrètes pour une transition climatique équitable et durable. Mais certains experts ne se font pas d'illusions sur l'issue de cette COP. C'est le cas de Didier Imkwa, militant écologiste et prescripteur du mouvement Écologie en Marche. Il a été joint à Douala par Mohamedou Mfa.
Depuis la COP21, qui a été sanctionnée par l'accord de Paris, jusqu'à la COP28 qui va se tenir demain, il n'y a pas quelque chose de sensible. On est toujours dans les promesses, on est toujours dans les engagements tenus. Et à la longue, on se rend compte que la priorité même de ces gros pollueurs n'est pas le climat en tant que tel. Parce que nous sommes tout à fait surpris aujourd'hui que l'on nous parle d'un réchauffement catastrophique, parce que la borne était placée à 2 degrés concernant l'évolution de la température, du climat. Cette borne est presque dépassée à 3 degrés. Et nous nous rendons compte que la priorité est ailleurs. La priorité peut-être c'est les hydrocarbures sur le pétrole. La priorité n'est vraiment pas le climat. Donc je serais peut-être péremptoire, prétentieux. L'Afrique n'attend rien de la COP28.
Mais est-ce que sur le continent, il y a des initiatives quand même qui permettent de lutter contre le réchauffement de la planète sans attendre forcément les rencontres comme celle de la COP28?
Vous savez, le problème de l'Afrique aujourd'hui n'est pas beaucoup plus vers la réduction des émissions, encore que nous avons besoin de notre développement. Le problème de l'Afrique aujourd'hui se trouve au niveau de l'adaptation. Et un pays comme le Cameroun a son programme national de mécanisme d'adaptation au changement climatique. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour réduire la vulnérabilité des populations face aux aléas climatiques, comme la construction des drains fluviaux, la construction des logements sociaux, mais ce n'est pas assez suffisant. Nous devons décrypter les alternatives ou bien des approches endogènes. Et lorsque on passe en revue ces approches endogènes, on constate qu'il y a un certain nombre d'obstacles, la corruption, le détournement de fonds, qui auraient pu amener notre pays à bien renforcer sa résilience au changement climatique.
Quelle est selon vous la meilleure approche pour les pays africains pour être plus audibles sur cette question dans les rencontres comme la COP?
Nous pensons aujourd'hui que l'Afrique devrait se comporter comme un pays. Parce que face aux États-Unis, face à la Chine ou bien à l'Inde, les pays africains ne doivent pas aller en rang dispersé. Nous devons parler du même voix, nous devons présenter les mêmes projets. Par exemple, la Grande Muraille Verte, qui couvre à peu près 135 000 hectares de terre, qui va du Sénégal jusqu'à Djibouti. C'est un projet panafricain, panafricaniste, qui nécessite des gros fonds. Je pourrais aussi parler de la restauration du bassin du lac Tchad, qui aujourd'hui reste encore une énigme. En 1970, le bassin du lac Tchad faisait à peu près 21 000 km². Mais aujourd'hui, à cause de la sécheresse, à cause des activités anthropiques, c'est à peu près aujourd'hui moins de 3 000 km², avec plus de 35 millions d'habitants venant d'horizons divers. On ne parvient pas aujourd'hui à renflouer, à mettre de l'eau dans le bassin du lac, parce que cela nécessite encore des fonds.
Didier Imkwa, du mouvement Écologie en Marche. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.